Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue dans la dernière émission de Cinérama de l'année 2022. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez tous des films, évidemment. Toi, tu en as deux, Guillaume.
Oui, j'ai Bandy de Alan Ungar qui sortira en VOD. Et puis, j'ai les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh, pour lequel je vais essayer de bien prononcer des noms irlandais qui ne sont pas faciles, je dois bien l'avouer.
Ah, mais on t'en sait gré. Et toi, Manu, tu as le film islandais de la fin d'année.
Voilà, exactement, qui s'appelle donc Godland de Linur Palmason.
Et nous pourrons jouer un blind test. Alors, c'est un peu la tradition dans cette émission. Hein. Quand une année se termine, on joue un blind test, mais version vraiment extended, comme on dit dans le cinéma. C'est-à-dire que nous allons écouter 10 extraits de films sortis en 2022. Alors, évidemment, des films qui ont déjà leur sortie en VOD. Il faut effectivement que les films soit déjà présent sous format numérique. On commence cette émission avec Bandy, un homme qui a commis 63 braquages de banque et de bijouterie.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
J'aimerais vous montrer un truc. Vous voyez cette banque en face? Je peux y entrer et en sortir en 3 minutes.
Et y faire quoi?
La braquer.
L'inconnu Alan Ungar a décidé de s'intéresser au livre The Flying Bandit de Robert Knuckle pour livrer le plus consensuellement titré Bandy, un film qui malheureusement arrive directement en VOD chez nous. Alors pourquoi malheureusement? Et bien tout simplement parce que, même s'il ne révolutionne absolument rien le genre qu'il explore, Bandy est avant tout un spectacle agréable et soigné au salutaire accent libertaire qui aurait mérité un peu plus d'exposition sur grand écran, surtout au moment où ces derniers sont saturés d'images, séquences et personnages tous plus lénifiants les uns que les autres. Alors comme dit plus tôt, Bandy ne révolutionne rien, mais, et c'est la force des récits classiques, nous rappelle pourquoi on est enclin à apprécier certains archétypes, certains mécanismes bien huilés touchent toujours dans le mille, mais que tout cela n'est rien sans la petite touche d'humanité et d'impertinence propre aux canailles anticonformistes qui font toute la différence avec la leçon de morale. Au programme donc du fun, des gros mots, des personnages dignes d'une bande dessinée et le sentiment de blaguer entre adultes après s'être enfilé quelques verres dans le cornet. Et franchement, ça manque terriblement à nos salles obscures.
Chaque ville a son roi. À Ottawa, ce mec c'était Tommy Kay.
J'ai peut-être pas été plus loin que le collège, mais j'ai un doctorat en sciences de la rue.
J'ai besoin de capital pour un travail hors des sentiers battus et j'ai cru comprendre que vous étiez l'homme à qui je devais m'adresser.
Je suis parfait.
Au partenaire et à l'ivresse. Personne n'est mauvais en arrivant au monde. Comme tout le reste, ça demande de l'entraînement.
Bandy s'inspire de l'histoire vraie de Gilbert Galvan Jr., un Américain qui est devenu le plus grand voleur du Canada. Alors, adepte des déguisements, il a commis près de 63 braquages de banques et de bijouteries, allant jusqu'à parfois voler près de 3 établissements par jour avant de rejoindre sa femme tranquillement à la maison. Alors, il est surnommé The Flying Bandit à cause de sa faculté à s'évaporer dans l'air et ressemble un petit peu donc à Albert Spagliari, le célèbre auteur du Casse de Nice, dit le Casse du siècle, pour sa propension à détester la violence et privilégier l'astuce sur toute autre forme de pression. Bref, un parfait Arsène Lupin est donc un parfait sujet de fiction et donc de cinéma, et il n'était, on le comprend, qu'une question de temps pour que le 7e art le récupère. Alors bien sûr, on sent ici que tout a été bien arrangé à la sauce hollywoodienne, tant tout glisse comme il se doit sur des roulettes tellement huilées que la surprise sera le seul ingrédient absent de ce film, mais le film se permet quelques écarts de langage, de nudité et de situation que l'on désespère de retrouver dans un film estampillé sujet adulte aujourd'hui. Bandy réussit à être à la fois léger, divertissant et suffisamment mature pour que l'on passe un bon moment en compagnie de cette tribu de pieds nickelés, qu'on arrive à les apprécier et à même questionner leur point de rupture. Alors, autant le dire tout de suite, si le film est franchement agréable, la fin reste toutefois le point noir, ayant beaucoup plus de mal que le reste du développement à rendre excitant et sympathique une conclusion un peu abrupte. C'est là la limite du traitement d'Alan Ungar, car s'il arrive pendant 1h30 à nous enjoliver la vie, alors au passage c'est aussi l'une des fonctions de l'art et du cinéma, il a beaucoup plus de mal à conclure avec la même emphase, faisant des 10 dernières minutes le marqueur d'un triste retour à la réalité la plus banale qui soit, et ce avant même que le générique de fin ne retentisse. Atlantis. Alors fallait-il faire une entorse à l'histoire et modifier la fin ? Par définition déceptive, car sifflant la fin de la partie pour un monte en l'air ultra charismatique, à la manière de Quentin Tarantino et de son exceptionnel Était une fois Hollywood, eh bien pas forcément, mais on aurait aimé plus d'inventivité. En témoigne, hein, c'est la réutilisation récurrente du panneau. Ceci est toujours inspiré d'une histoire vraie, empruntée au chef-d'œuvre sous-estimé de Michael Bay, No Pain No Gain, mais sans en atteindre hein, l'aspect vitriolé et même outrageux. Bon, il faut dire que dans Bandit, il n'y a pas de moment où l'un des protagonistes bodybuildé complètement défoncé à la cocaïne cuit des mains coupées sur un barbecue.
Il y a un souci, monsieur.
Il y a eu un braquage de l'autre côté de la rue.
Quoi ? Ouais !
Lieutenant Ray Hoffman, 8224 cambriolages à l'échelle nationale.
Bah, ils arrêtent pas de réduire les effectifs parce qu'on fait pas de chiffres.
Enchanté.
Écrase-les avec ton succès. Emmerde-les avec le sourire. Et si ça suffit pas, il te reste toujours deux mains et quelques phalanges pour trouver une solution.
On unisse nos forces ?
Qu'on en crée une nouvelle.
Vous voulez dire une unité spéciale ?
Merci, Mère Noël.
Pour autant, il serait dommage de passer à côté de Bandit. Tout d'abord, déjà parce qu'il y a Mel Gibson, et que Mel Gibson, même dans un petit rôle qui ne va pas plus loin que quelques scènes, c'est déjà une plus-value monstrueuse. Il n'y a qu'à voir la scène où notre héros discute avec Gibson sur son Porsche et s'attend à se faire dérouiller par lui, alors qu'il est juste venu échanger des banalités qui se révèlent, on le comprend entre les lignes, bien plus riches de sens que ce qu'elles semblent être, pour se rappeler de l'immense talent de ce lion qui bouffe l'écran. L'autre raison est aussi due à ces comédiens vedettes, qui n'ont pas forcément eu de grands rôles sérieux, complexes et amusants à jouer depuis leur petit moment de gloire. C'est le cas d'Elisha Kulbert, popularisé par la monumentale série 24 heures chrono, et Josh Duhamel, surtout connu pour les Transformers de Michael Bay. À l'image de James Van Der Beek dans Les Lois d'Attraction, il est totalement bluffant dans un cadre à contre-emploi, et c'est totalement comment nous séduire, comme les caissiers et guichetiers que son alter ego rencontre à l'écran.
Bandit est disponible en VOD depuis le 22 décembre. Le réalisateur de Un jour si blanc et Winter Brothers nous plonge à la fin du 19e siècle en Islande, auprès d'un jeune prêtre danois qui doit construire une église, c'est Godland.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Alors comme je le disais en introduction, chaque fin d'année, il nous parvient du grand froid, un film marquant, parfois difficile d'accès, alors suscitant néanmoins dans les circuits à réessai un vif intérêt du public pour un cinéma peu distribué. Coproduction entre le Danemark et l'Islande, Godland est le nouveau long-métrage du réalisateur de l'excellent Un jour si blanc et de Winter Brothers, Linur Palmason. Présenté à Cannes dans la section Un certain regard, cette épopée aride affiche des partis pris stylistiques et narratifs qui peuvent agacer ou passer même pour des afféteries inutiles. En l'occurrence, le format carré avec ses angles arrondis comme au temps de certains muets. En réalité, rien de plus cohérent que ce choix. En effet, l'action se situe à la fin du 19e siècle. Le héros est un prêtre qui est aussi photographe. La forme du film s'en inspire fortement, essayant de retrouver la texture particulière des photos primitives du 19e siècle. Palmason raconte la lente déflagration d'un prêtre danois, Lucas, pétri de certitude, incapable d'être à la hauteur de ses idéaux. Il est envoyé en Islande pour participer à la construction d'une église et prendre en photo la population locale. Mais au cours de son expédition, il va affronter une nature hostile et sauvage, une humanité aussi qu'il connaît peu. Il traverse une mer agitée, se retrouve en difficulté avec des animaux qu'il ne comprend pas, s'oppose aux autochtones méfiants, notamment le rustre Ragnar, qui ressemble un peu à un viking, et puis il va braver donc le vent, la pluie, la boue, les volcans en éruption, bref. Tout cela fait beaucoup pour un seul homme qui se voudrait en fait digne et exemplaire, mais qui va se révéler tout au long d'une première partie tenue en échec par son environnement. Une fois sur place, le pire est à venir. Il va céder à la tentation de l'amour et de la violence, faisant alors vaciller sa moralité. Cet homme de foi, sous le regard détaché, sans affect du réalisateur, nous apparaît tristement humain, un mortel aussi lâche que peu empathique. Il n'est pas détestable, car chacun peut se retrouver en lui, mais n'attire aucune sympathie particulière. L'inhospitalité globale sert de catalyseur pour montrer la chute morale d'un être qui se croyait au-dessus des autres. La vision très rude du cinéaste peut déranger, mais elle est constamment transcendée par la beauté irradiante de sa mise en scène. La lumière, servie par un sens du cadre exceptionnel, capte admirablement les paysages islandais, en fait, nous rappelant par la seule force d'un plan que nous sommes peu de choses sur Terre. Alors Palmason déploie en fait une vision mystique de l'existence, hein, différente de celle d'un Tarkovsky, beaucoup plus terre à terre, hein, proche des éléments minéraux et organiques. Le sujet rappelle parfois certains Bergman ou Dreyer, hein, mais en réalité, l'athéisme du cinéaste le rapproche davantage d'un Werner Herzog, hein, de par sa fascination mêlée à de l'inquiétude en observant Dame Nature. Alors Godland peut certes rebuter par sa lenteur revendiquée, ses dialogues au compte-gouttes, son refus de compromission, sa raideur narrative, mais pour peu que l'on fasse l'effort d'accepter l'expérience, le voyage s'avère payant. D'autant que Palmason s'avère un formaliste exceptionnel. L'inoubliable plan séquence circulaire filmant le paysage se terminant sur le visage meurtri du prêtre est un grand moment de cinéma alliant puissance du récit et beauté plastique. Alors ou encore ces plans terribles vus d'en haut où l'on assiste à la décomposition physique d'un cheval mort. Alors si le cinéaste n'est pas tendre avec son anti-héros, hein, un religieux abandonnant tous ses principes au fur et à mesure, se rendant compte qu'il est entouré même de personnes bien meilleures que lui, le cinéaste donc porte sur les gens simples un regard bienveillant, sans condescendance, ce qui apporte une humanité à une œuvre plutôt austère mais passionnante, alors dotée aussi d'une sublime musique traditionnelle et puis de comédiens tous parfaits. On retrouve par ailleurs la très jeune révélation d'Un jour si blanc, qui s'appelle Ida Mekin Linsdottir, qui par sa fraîcheur et sa vitalité amène une touche de légèreté, voire même un petit peu d'humour au film.
Godland est donc en salle depuis le 21 décembre. Nous allons maintenant jouer pour cette dernière émission de Cinérama. Nous allons jouer avec les films sortis en 2022. Il y en aura sans doute des faciles, mais des plus difficiles à deviner.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Premier extrait donc d'un film sorti en 2022.
C'est bien une sauterelle, des mandibules, des ailes, un thorax, mais... elle est gigantesque, c'est monstrueux.
Les gènes dont elle est porteuse ont disparu au Crétacé. Et il y en a des nuées du même genre qui ravagent les fermes entre l'Iowa et le Texas. C'est terrifiant, non? Elles étaient d'abord quelques centaines, et à la fin de l'été, elles pourraient être des millions. Si elles se multiplient, il n'y aura plus de quoi nourrir le bétail, la volaille, toute la chaîne alimentaire sera amenée à disparaître.
C'est évident qu'elle a été créée, mais qui pourrait vouloir faire ça?
Les seuls champs qui ne sont pas attaqués sont ceux où du biocine est utilisé.
Trouvé, Guillaume.
C'était la Baumifreux, Jurassic World Dominion.
Oui, Le Monde d'après de Colin Trevorrow, sorti le 8 juin, 4 ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité, hein, entière, mais l'équilibre va être rompu par le projet d'une multinationale ne pensant qu'au profit. C'est ce qu'on entend dans cet extrait. 3,4 millions d'entrées en France. Deuxième extrait donc de ce blind test où vous devez trouver des films sortis en 2022.
Mais j'ai pas toujours été de droite. Moniteur, non. Non. Mon père était communiste. Moi, quand j'étais petit, j'ai vendu des chaussettes Che Guevara à son stand à la fête de l'Humain. Ouais, et quand j'ai eu l'âge d'avoir un peu de moustache, je me suis fait la même que Staline. Ouais, c'est vrai. Hein. Après, effectivement, je me suis dirigé vers la droite, mais ça, c'est bon, par opportunisme, hein, je le concède. Je venais d'hériter de mon grand-père, ça m'emmerdait de donner tout cet argent à l'État pour qu'il construise des hôpitaux et des routes que j'emprunterai jamais. Et puis après, effectivement... j'ai flirté avec l'extrême droite.
Ouais. Ouais.
Ben oui, mais parce que j'aime les blondes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais célibataire, tout le monde sait que c'est quand même le parti où il y a le plus de blondes au mètre carré. Hein? C'est pas vous qui allez me contredire là-dessus, hein? Et puis après, j'ai décidé de faire cavalier seul, devenir l'homme providentiel, en proposant une droite décomplexée, hein, sans tabou, le DEC, le divers extrême centre. Voilà.
C'est en même temps de Carverne et d'Elépine.
Oui, film sorti au mois d'avril avec Vincent McCain et Jonathan Cohen. À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, eh bien, un maire de droite décomplexé, qu'on entend, Jonathan Cohen, essaie de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble pendant tout le film. Seulement 125 000 entrées en France. Je regrette que ce film n'ait pas eu plus de succès parce que c'est vraiment une comédie qui est vraiment réussie du début à la fin. Troisième extrait de ce blind test consacré à des films sortis en 2022.
C'est marrant, non? Pete, il disait toujours, c'est pas les fringues mais les chaussures qui disent tout ce qu'il faut savoir sur un homme.
Ouais.
Il avait une semelle plus haute à sa chaussure droite.
Il a dû avoir la polio étant gamin.
Et l'armée a pas dû vouloir du fils à maman. Je l'ai su en voyant son regard.
Excellent.
Parce que je sais de quoi je parle, moi. Il a tenté de nous embarquer, Clem, avec sa jolie petite moustache. J'ai vu la chaîne autour de son cou. Je lui ai parlé de sa médaille de Saint-Christophe, de la Bible, tous ces trucs. Je me suis dit qu'il devait sûrement connaître une Marie.
Ouais.
Et voilà le travail, le Seigneur nous a bénis. Sa mère s'appelait Marie.
Oui, tu l'as eu !
Trouvé, Manu.
Et c'est donc le Guillermo del Toro, Nightmare Alley.
Oui, film sorti en janvier avec Bradley Cooper et Cate Blanchett. Le film raconte l'histoire de Stanton Carlisle qui s'initie au mentalisme et qui décide d'arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Mais il va se confronter à un homme aussi puissant que dangereux, 401 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test consacré au film sorti en 2022.
Qu'est-ce que tu espérais en venant à Paris ?
Être libre, faire ce que je voulais, rencontrer des gens intéressants, lire des bouquins, visiter les musées.
Voler dans les magasins.
Mais ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?
Ça m'aide un peu à comprendre.
Comprendre quoi ?
Une fille comme toi.
Mmh. Des filles comme moi, il y en a des paquets à Paris. Mmh. Des âmes en peine qui tournent boule. Moi, je les repère de loin. Franchement, je les plains.
Et c'est trouvé, Manu.
Et c'est donc Maigret de Patrice Lecomte.
Ah oui, film avec Gérard Depardieu qui n'en a pas fait tant cette année 2022. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Et pour le bien de son enquête, il rencontre une délinquante. Là, on l'entend hein, dans cet extrait. Qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition plus ancienne et plus intime. 541 000 entrées en France. Alors, est-ce Gérard Depardieu, est-ce Maigret ? En tout cas, les gens se sont pressés en salle. Cinquième extrait de ce blind test.
Non, non, vous déconnez. J'ai pas l'habilitation pour faire ça.
Je suis la nouvelle directrice de la NASA, alors. Je vous la donne. Félicitations.
Oui, mais... J'ai une colopathie. Le syndrome du côlon irritable. Et j'ai le mal des transports.
Tu as dit que tu as toujours voulu être astronaute.
Et je souffre d'anxiété débilitante.
Casey, si la Lune est vraiment telle que tu penses, il nous faut un méga-structuriste.
C'est Moonfall de Roland Emmerich.
Oui, 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 film sorti en février. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. Les hommes n'ont que quelques semaines pour trouver une solution et deux astronautes de la NASA et un théoricien du complot dont on entend eh bien, les limites finalement, unissent leurs forces pour tenter une mission impossible dans l'espace. Ce fut un bide hein, quand même pour un gros budget. 342 000 entrées en France. Sixième extrait de ce blind test consacré à des films sortis en 2022.
Vous savez, moi j'ai défendu des salauds, des grands salauds. Mais aussi des escrocs, des voyous, mais des gens bien. Et puis parfois j'ai accepté des conciliations comme vous êtes en train de me proposer aujourd'hui. Et puis un jour j'ai défendu un patron dans une affaire de faillite frauduleuse. Et beaucoup, beaucoup de petits gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Il y a eu de la casse. Il y a eu un suicide. Des vies brisées. J'ai gagné le procès. Et j'ai permis à ce patron de poursuivre tranquillement son ascension. Mais ce jour-là, je me suis dit que peut-être, à force de me désintéresser de tout, j'étais peut-être un peu responsable de toute cette merde autour.
Alors, c'est trouvé.
Et c'est donc Goliath.
Oui, film de Frédéric Tellier sorti en mars. Le film raconte une enquête sur les pesticides. Il est notamment inspiré des affaires impliquant Monsanto et son herbicide à base de glyphosate. Trois personnages principaux, un avocat qu'on entend ici, un lobbyiste et une femme qui a perdu sa compagne agricultrice. 779 000 entrées en France. Sixième extrait de ce blind test consacré à des films sortis en 2022.
Vous êtes venu récupérer votre taco, ben allez chercher les clés dans la boutique, moi je peux plus y retourner.
Attendez, ce qui est à moi est à vous. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, je vous rappelle. Où courez-vous comme ça ? J'ai jamais ressenti quoi que ce soit pareil.
C'est ce qu'on croit toujours au début, mais dans deux jours, vous pourrez plus me voir en peinture. Parce que j'ai des lubies, figurez-vous. J'ai horreur du quotidien, je m'ennuie très facilement, je suis très capricieuse, toujours en retard, d'une jalousie maladie, voilà, c'est bon.
Attendez, vous n'avez pas le monopole du désastre, hein. Moi je suis un coureur, un panier percé, je mens comme un arracheur dedans, vous verrez, je suis la mauvaise foi personnifiée.
Bravo, vous êtes une crapule, très bien. N'empêche, c'est moi la championne des causes perdues. Parce que je suis constamment heureuse ou triste, jamais tranquille.
Alors, vous devez être bien plus triste que la majorité des gens, d'accord, mais bien plus heureuse aussi.
Alors, ça a été trouvé.
C'est en attendant Bojangles ?
Oui, et ça, c'est une séquence avec un long travelling arrière, un plan séquence. qui dure bien plus longtemps que cet extrait. Donc c'est avec Virginie Efira et Romain Duris qu'on entend, adaptation du roman éponyme d'Olivier Bourdeau qui a bien marché. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, ça on le voit bien dans le film, jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéductable coûte que coûte 557 000 entrées en France. Huitième extrait de ce blind test.
Vous m'avez fait profondément réfléchir sur moi, sur ma mission.
Comment ?
Ah oui. Je me suis rendu compte, hein, José ?
Oui.
Que penser que des fonctionnaires allaient quitter l'administration juste parce qu'on leur agite un chèque sous le nez, c'était presque un peu...
Indigne.
Voilà, indigne. Vous valez beaucoup mieux que ça. Vous l'aimez, cette maison. Vous êtes l'un des plus grands commis de l'État que nous ayons.
Merci, madame l'inspectrice. Vous en êtes une autre.
35.
Il est vilaine.
35 000 euros. Vous acceptez ce chèque, vous prenez vos petits petons et vous quittez cette maison.
Madame l'inspectrice, c'est justement le serviteur de l'État qui va vous répondre. L'État français qui a une dette de 2500 milliards d'euros, je crois que vous vérifierez. Et vous pensez que je vais alourdir tout ça en acceptant cette pauvre indemnité ? Restons-en là, madame Bayoncourt.
Ça a été trouvé, même si ça n'a pas été vu.
Non, ça n'a pas été vu, mais la bande-annonce, j'ai dû la voir une dizaine de fois au cinéma, donc c'est Irréductible de Jérôme Commandeur.
Oui, film sorti en juillet que j'ai plutôt apprécié, en fait. Vincent Pelletier, paisible employé aux eaux et forêts à Limoges, et plutôt tir au flanc, est incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs des fonctionnaires, et il s'y oppose. Une inspectrice décide de le muter dans les pires endroits du monde pour le pousser à renoncer. 754 000 entrées en France et franchement c'est plus subtil que les municipaux de, puisqu'on parle des fonctionnaires et tutti quanti, c'est plus subtil que les municipaux des Chevaliers du Fiel, hein, vraiment je recommande ce
c'est
film
pas dur.
C'est difficile d'être plus subtil que les Chevaliers du Fiel.
Il y avait aussi un film qui s'appelait Les Collègues, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les années fin 90-2000,
le film Made in Marseille, hein, si vous vous rappelez, la bande-annonce qui m'avait traumatisé.
En tout cas je recommande ce film Irréductible qui est disponible en VOD. Avant-dernier extrait de ce blind test consacré au film sorti en 2022.
Le plancher est fixé à 5000 pieds au-dessus du niveau du sol. Un paramètre qui assure la sécurité de nos pilotes, mais qui préserve aussi leurs appareils. 5000 pieds, ce n'est pas uniquement une règle. C'est une loi, aussi immuable que la gravité.
Le plancher sera plus bas quand nous serons en mission.
Il n'est pas question qu'il change sans mon approbation. En particulier pendant un exercice. Et votre manœuvre du cobra, là, elle aurait pu vous tuer tous les trois. Je ne veux plus voir ce genre de conneries.
Qu'aviez-vous l'intention de l'enseigner, commandant ?
Qu'aussi doué qu'il soit, monsieur, il doit apprendre encore.
Il s'agit des meilleurs pilotes de chasse de toute la planète, commandant.
On leur a dit ça toute leur carrière, monsieur. Or, ils n'ont appris qu'à bombarder de haute altitude sans confrontation directe. Les paramètres de cette mission exigent une pratique qu'ils ne maîtrisent pas.
Il faut que dans moins de 3 semaines, ils aient appris à combattre en équipe et à atteindre la cible.
Et à revenir.
Évidemment, trouver, c'était trop facile.
Top Gun.
Maverick. Doit-on préciser, sorti en mai, pas vraiment apprécié au sein de la Navy, Pete Maverick Mitchell est embauché pour former de jeunes pilotes à une mission périlleuse et évidemment, il va s'en sortir indemne. 6,6 millions d'entrées en France. C'était un film plutôt incontournable de cette année 2022 puisque c'est l'un des films qui a le mieux marché en attendant les chiffres d'Avatar, évidemment. Dernier extrait de ce blind test.
C'est un crime qui défie la raison. Et nous explorons toutes les pistes disponibles afin d'identifier le coupable et de le traquer sans relâche.
J'aimerais pouvoir dire que je suis utile. Mais je n'en sais rien. Meurtre, vol, agression. En 2 ans, tout a augmenté. Et maintenant, ça. La ville s'autodévore. Elle est peut-être irrécupérable. Mais je dois tout faire pour la sauver. Je dois me dépasser.
C'est trouvé.
C'est The Batman de Matt Reeves.
Oui, sorti en mars, 9e film centré sur le personnage de Batman. après les belles explorations de Nolan, Gotham est toujours aussi corrompu et en proie au crime, et Batman en a gros sur la patate hein, quand même dans ce film. Un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques. Une piste d'indices cryptiques envoie Batman sur une enquête dans la pègre où il rencontre les personnages tels que Catwoman, avec une merveilleuse scène entre Batman et Catwoman qui me restera longtemps à l'esprit. Le Pingouin est le parrain de la mafia, Carmine Falcone. Ce film met en scène Robert Pattinson dans le rôle titre, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman et Colin Farrell dans le rôle méconnaissable de, du Pingouin. 3 millions d'entrées en France. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré aux sorties des films dans les salles en 2022. Deux amis de toujours ne se parlent plus, la situation va s'envenimer alors que gronde la guerre civile, c'est les Banshees d'Inisherin. Et c'est toi Guillaume qui nous en parle.
Non mais bon, de toute façon ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, connerie, connerie je vous dis, et même saloperie. Hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Entre Martin McDonagh, hein, Colin Farrell et Brendan Gleeson, bah, c'est décidément une histoire d'amour hein, qui dure depuis un moment hein, et qui ne semble pas s'effilocher. Alors le réalisateur retrouve ici son duo vedette de Bon Baiser de Bruges et avait fait aussi tourner Farrell dans Sept Psychopathes. Alors après son remarqué et oscarisé Three Billboards, donc les panneaux de la vengeance, il semblait avoir besoin hein, de ses copains pour raconter l'étrange et pas banale histoire des Banshees d'Inisherin hein, qui s'intéresse à la relation bien plus complexe qu'il n'y paraît entre deux hommes que tout semblait unir et qui vont s'éloigner l'un de l'autre avec fracas alors que l'Irlande connaît des moments difficiles avec la guerre civile qui la ravage en ce début des années 20. Inisherin, hein, c'est une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande sur laquelle Parik, alors je vais essayer de tout prononcer hein, comme il faut, donc Parik et Colum ont toujours vécu. Un jour, alors que, comme d'habitude, Parik hein, va toquer à la porte de Colum pour savoir s'il veut le suivre pour boire une pinte au pub du coin, il a la mauvaise surprise de découvrir que Colum a décidé de changer ses habitudes et ne veut plus de lui. En le rejetant clairement et froidement de la sorte, hein, bah, il tient à lui faire comprendre qu'il décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Alors Parik hein, encaisse le choc mais n'accepte pas pour autant la situation et tente par tous les moyens de recouler les morceaux avec le soutien de sa sœur Chiovan et de Dominique, un jeune insulaire mais un petit peu dérangé qui est le fils de l'officier de police local. Mais les efforts répétés hein, de Parik ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colum hein, finit par poser un ultimatum désespéré et totalement radical, ben, les événements s'enveniment et vont avoir de terribles conséquences. Car oui, ce qui semble débuter comme une comédie remuant un petit peu le quotidien d'un village isolé va peu à peu devenir beaucoup plus dramatique et à l'image de la guerre bah, qui tonne dans le fond et qui semble se rapprocher de scène en scène, bah, l'orage va progressivement s'installer et éclater au-dessus de la tête de Parik. Alors Parik n'accepte pas hein, la situation et va le faire comprendre à son ami. Pourquoi ne plus lui parler ? Et en effet, la question se pose, pourquoi décide-t-on un jour de ne plus parler à quelqu'un ? Et au-delà de ça, et sans choc traumatique apparent, quels sont les mécanismes qui font qu'un jour, on n'a plus envie de fréquenter une personne dont on était pourtant proche, et on décide d'emprunter bah, une autre route parce que, eh bien, parce qu'il semblerait que ça soit la seule et meilleure chose à faire. Alors, on le voit, les Banshees d'Inisherin, à un point de départ aussi déroutant que fascinant, car s'il part d'un petit rien, le refus d'aller boire une pinte, il va avoir des conséquences totalement dramatique. Ah bon, en Irlandais, hein, Parik et Colum ne voudront jamais céder l'un voulant savoir pourquoi l'autre veut son indépendance et l'autre va se battre jusqu'au sang pour l'avoir. Colum s'est réveillé un jour en comprenant que le jour où il quittera cette terre, hein, bah, il ne laissera rien derrière lui et, faisant face à sa finitude, va essayer de mettre de côté le superflu qui a jusqu'à présent nourri son quotidien. Parik, hein, plus léger et moins philosophique, n'accepte pas d'être mis de côté pour des choses et considérations invisibles et cela va le torturer jusqu'au plus profond de son être. La fin de toute chose ou la mort. Hein. Comme la guerre en cette année 1923, elle est là, elle se fait entendre, elle fait des dégâts, des victimes, mais elle reste hors champ, on ne voit rien et on n'en saura pas grand chose. Ben, c'est à l'image du film et de ce qu'il propose sans aucune échappatoire. C'est à la fois la force hein, et la grosse faiblesse du film de McDonagh, hein, car s'il est bien sûr intéressant que le spectateur remplisse les vides hein, laissés par Colum, ben, le manque d'explications claires et précises dans le contexte final et la manière dont on laisse le même spectateur ben, digérer l'étouffant spectacle peut limiter franchement l'intérêt que l'on peut trouver au film. Alors les Banshees d'Inisherin est constamment baigné dans ce clair-obscur, bénéficiant de la magnifique photographie de Ben Davis, hein, qui est littéralement le dernier personnage important de cette histoire et qui supporte un casting en état de grâce.
Les Banshees d'Inisherin est en salle depuis le 28 décembre.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Nous nous retrouvons l'année prochaine, en 2023, avec Cinérama. Et toi, Guillaume, tu as déjà vu deux films ?
Oui, alors Nostalgia, un film plus napolitain qu'italien. Et Tirailleurs, le film de guerre avec Omar Sy.
Et puis Marine aura vu Caravage et Joyland. On se retrouve l'année prochaine. Et d'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.